Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Quel lien entre les trois textes que nous avons relus ce matin? Peut-être vous l'avez deviné, ce lien entre ces trois textes est la question du vêtement. Ce voile que l'apôtre Paul semble vouloir imposer aux femmes dans cette jeune communauté chrétienne qu'est l'église de Corinthe. Cette absence de vêtements entre Adam et Ève, qui sont nus, selon les textes de la Genèse, avant de prendre conscience de leur nudité. Et enfin, bien sûr, ce vêtement resplendissant que revêt le Christ au moment où il apparaît transfiguré à ses disciples. Pourquoi la question du vêtement ce matin au cours de ce culte? C'est parce que les jeunes du groupe de jeunes, lors de la dernière réunion que nous avons eue ensemble, avaient souhaité que nous discutions d'un vêtement qui a retenu l'attention de toute la société française au cœur de l'été. Ce vêtement, vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr du burkini. Et pour préparer cette discussion, j'ai souhaité que les jeunes travaillent sur deux articles du journal Réforme, deux articles assez contradictoires. Le premier, d'Ève Lurbe, prédicatrice laïque, fortement opposée au port du voile et au port du burkini. Elle estime qu'il s'agit là de la volonté des hommes de soumettre les femmes le vêtement comme signe de soumission des femmes vis-à-vis des hommes. À l'opposé, autre article, celui de Sylvette Poulet-Goffard, présidente d'une association de dialogue avec l'islam, qui estime, elle, au contraire, qu'il s'agit de respecter le souhait, la volonté, la foi de ces jeunes femmes. Et qui sommes-nous pour leur dire quels vêtements elles doivent porter ou non? C'est de l'ordre de leur liberté. Et puis, elle ajoute dans son article qu'il y a risque de stigmatiser ces femmes et en interdisant le burkini, de les enfermer encore plus dans une solitude. J'ajoute un troisième article, donc c'était le journal d'après celui où Sylvette Poulet-Goffard a donné son propre témoignage, celui d'un paroissien, Jean Paulet, qui de manière tout à fait intelligente, il me semble, disait qu'il fallait se poser la question, non pas en soi, mais se poser la question de la légitimité du port de ce burkini dans le contexte actuel de la société française. Et c'est ce que je pensais d'ailleurs, et cela rejoint bien sûr la manière dont notre spiritualité protestante, en tout cas réformée, entend lire la Bible dans le contexte où elle a été écrite, et c'est ainsi que je souhaite lire notamment ce passage polémique de l'apôtre Paul, où il exhorte les femmes à porter un voile. Nous y reviendrons, mais d'abord, je vous propose de faire un petit voyage dans les textes bibliques et de revisiter avec vous quelques textes où il est question de vêtements. D'abord, puisque nous allons aborder cette année toute la saga de Joseph, faire mémoire de ce vêtement qui a jeté l'opprobre d'une certaine manière sur Joseph, cette tunique qu'il reçoit de son père, cette magnifique tunique bariolée, qui va provoquer la jalousie de ses frères, légitimement, puisque cette tunique dit que Joseph est le bien-aimé, est le chouchou du père, et cela est manifesté par cette tunique de toutes les couleurs. Que le père est un frère préféré, cela peut s'entendre, cela peut être entendu par les frères de Joseph, mais que cela soit manifesté visiblement par le port de cette tunique, cela est insupportable. Et vous connaissez la suite de l'histoire, les frères vont vouloir tuer Joseph, puis finalement, pris d'un remords, ils le jettent au fond d'une citerne, de là il sera pris par une caravane et sera emmené vers l'Égypte. Le vêtement comme un signe d'élection, comme signe qu'on est différent des autres, qu'on est au-dessus des autres. Deuxième texte que je souhaite convoquer, je l'ai évoqué déjà, ce texte de la Genèse où les questions d'Adam et Ève. Ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Et puis, dès qu'ils mangent du fruit de l'arbre de la connaissance, ils découvrent leur nudité, alors ils ont honte de cette nudité et décident de se fabriquer le premier vêtement de l'humanité, que l'humanité est revêtue. Un pagne fait non pas de feuilles de vigne, comme cela est souvent représenté sur les tableaux, mais un pagne fait de feuilles de figuier. Le vêtement pour couvrir sa nudité, le vêtement qui fait appel à la question, à la notion de pudeur. Peut-on se passer de vêtements? Peut-on se mettre à nu les uns devant les autres? Je ne le pense pas, je ne le crois pas, mais ce texte nous dit tout de même qu'il y a quelque chose de perdu, d'une innocence perdue depuis que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance et que peut-être, certaines fois, dans des moments de confiance, dans des moments de profondeur spirituelle, il est possible de se dévoiler, de dévoiler son cœur, de dévoiler ses failles, de dévoiler ses espérances, de dévoiler ses détresses, mais aussi ses joies, qu'il est possible de les dévoiler à des frères en Christ, et qu'il y a là profondément quelque chose de la communion fraternelle. Ce dévoilement possible nous est attesté, bien sûr, en la personne de Jésus-Christ, par lequel, dans lequel Dieu se dévoile, Dieu bat les masques et se révèle non pas comme un Dieu qui nous regarderait de sa grandeur, de sa hauteur, qui nous regarderait du ciel, mais d'un Dieu qui se rend proche de ses enfants, tel un père se rend proche de ses enfants. Troisième texte, troisième vêtement que je veux convoquer, ce texte, ou ces textes plutôt, où l'homme ou la femme en proie à une détresse, en proie à une grande culpabilité, en proie à un souci de demande de pardon vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Créateur, déchire ses vêtements. Il y a de nombreux textes comme cela dans l'Ancien Testament où nous voyons que les vêtements déchirés sont le symbole du cœur déchiré. Je déchire mes vêtements parce que mon cœur est déchiré. Pour reprendre l'histoire de Joseph, et je l'ai redécouvert quand Ruben, lui qui a réussi, c'est lui qui a réussi à convaincre ses frères qu'il ne fallait pas tuer Joseph, quand Ruben revient à la citerne et découvre que Joseph n'est plus là, son cœur est déchiré et il déchire ses vêtements. Malédiction pour lui, malédiction pour ses frères qui ont tué leur frère. Enfin, dernier texte, non pas le moindre, ce texte bien connu de la transfiguration de Jésus, où Jésus apparaît devant très très peu de témoins, il faut le noter, devant trois disciples simplement, puis après Élie et Moïse apparaissent dans un songe, mais ils apparaissent venant du royaume de Dieu, du royaume des morts et des vivants. Donc Jésus apparaît transfiguré à ses disciples, signe avant-coureur qu'il est bien le ressuscité. Et il faut entendre cette affirmation-là, Jésus-Christ est le ressuscité, et le ressuscité, il faut l'entendre, alors que dans le second projet de déclaration de foi que nous avons étudié ensemble lors de la réunion du consistoire samedi dernier, le mot résurrection était absent. Le Christ est ressuscité. Le Christ, par ses vêtements éclatants de plancheur, affirme bien là à ses disciples qu'il est le Messie, qu'il est le Seigneur. Mais encore une fois, il le fait devant très très peu de témoins, et après, alors qu'ils redescendent de la montagne, Jésus et donc les disciples, les trois disciples convoqués, Jésus dit bien à ses disciples, surtout n'en parlez pas. Surtout n'en parlez pas. Après ce petit voyage dans la Bible, il me faut aborder donc ce texte polémique l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, où il exhorte les femmes à porter un voile lors des cultes. Premier point, j'ai fait lire ce texte à ma fille, et en le lisant, la première réflexion qui est venue à sa bouche, c'est bien compliqué. Et c'est vrai que c'est bien compliqué, et si c'est bien compliqué, alors que l'apôtre Paul a une pensée souvent très claire, très sûre, c'est qu'il n'est pas convaincu, je le pense, je le crois, de ce qu'il est en train de dire. Il n'en est pas convaincu du tout. Il utilise des arguments divers et variés, des arguments que l'on pourrait presque qualifier de fallacieux. C'est naturel, c'est comme ça, ça s'est toujours fait. Il est naturel que les femmes aient les cheveux longs. Il est naturel que les hommes aient les cheveux courts. Il est naturel et suprême argument qui ne tient pas la route. Il dit, de toute façon, c'est pas la peine de discuter. Alors, s'il dit que ce n'est pas la peine de discuter, c'est bien qu'il y a forte discussion autour de ce sujet, de ce port du voile dans la communauté corinthienne. Ce n'est pas la peine de discuter parce que c'est la coutume. Parce que c'est la coutume. Vraiment, très faible argument de la part de l'apôtre Paul. Et encore une fois, mon intuition est que il n'est pas totalement convaincu, et même très peu convaincu, de ce qu'il est en train de dire, sinon ses arguments seraient beaucoup plus théologiques et spirituels. En écho à ce texte, j'entends ce texte dans une autre de ses épîtres, « Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus esclave ni homme libre, nous sommes tous, vous êtes tous les enfants de Dieu. » Deuxième point, ayant dit cela, il me semble, et je veux être peut-être un peu provocateur vis-à-vis des femmes de cette assemblée, il me semble que dans ce texte, l'apôtre Paul est profondément féministe. Pourquoi? Parce qu'il légitime le fait qu'à l'époque, des femmes prennent la parole dans une assemblée et enseignent les hommes. C'est profondément novateur. C'est profondément féministe à l'époque. Et c'est si novateur qu'aujourd'hui encore, des églises refusent aux femmes le droit d'enseigner. Au cœur de ce texte, donc, qui semble faire polémique, il y a cette affirmation qu'hommes et femmes ont reçu en plénitude le Saint-Esprit. Cela est profondément novateur et profondément féministe, je tenais à l'affirmer. Quant à la question du voile, qu'est-ce qui est en jeu à ce moment-là de l'Église? Ce qui est en jeu, il me semble, ce n'est donc pas une question de domination et de soumission des hommes sur les femmes ou des femmes sur les hommes. Ce qui est question, et cela fait écho à une autre question d'actualité soulevée par le pape, c'est la question de la différence des sexes. Ce que veut affirmer l'apôtre Paul, c'est que même s'il n'y a plus ni homme ni femme en esprit, si les hommes et les femmes sont à égalité devant Dieu en matière d'esprit, en matière de foi, la distinction des sexes continue à être pertinente. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de l'ish, il y a de l'isha, hein, ish homme en hébreu, isha femme, de la même essence, mais avec de la différence, et que cette différence entre hommes et femmes doit être maintenue. La question, replacée donc dans ce contexte qui nous rejoint aujourd'hui, est comment dans la société, comment dans l'Église, les femmes peuvent-elles affirmer leur féminité et les hommes peuvent-ils affirmer leur masculinité? À l'époque, Paul pensait de manière abusive, il me semble que les femmes devaient affirmer leur féminité par le port du voile. Il n'en est plus question, évidemment, aujourd'hui. La question, donc, est comment affirmer cette différence des sexes légitime. Le Coran, dans deux de ses sourates, affirme de manière très claire que les femmes doivent porter le voile. Est-il possible, comme j'ai tenté de le partager avec vous ce matin, que le Coran puisse avoir une lecture historico-critique de son texte sacré, de son texte de référence? Le christianisme a dit oui, Elle dit assurément oui, depuis qu'il est entré dans une lecture historico-critique des textes. Certains intellectuels musulmans ont dit oui, oui, bien sûr, qu'il est possible de lire de manière historico-critique le Coran. Certains imams aussi ont dit oui, mais c'est loin, évidemment, d'être la manière la plus forte, la plus en vogue de lire le Coran. Et pourtant, il me semble que c'est bien là le débat, le cœur d'une relation apaisée avec l'islam, dans le contexte dans lequel, évidemment, je vous parle de troubles de la société française. Une lecture historico-critique du Coran peut-elle advenir, je l'espère. Et sans doute nous avons à essayer d'accompagner, de fortifier, d'encourager les théologiens musulmans de manière plus explicite à entrer, à communiquer, à partager cette lecture historico-critique du Coran. À la lumière des textes bibliques que j'ai convoqués ce matin, il me semble que dans le dialogue que nous avons à nouer avec l'islam, dans le dialogue aussi que nous avons à nouer avec d'autres spiritualités chrétiennes ou l'égalité homme-femme, en tout cas dans la dimension d'enseignement, n'est pas encore de mise. Il me semble que nous avons à tenir, en tout cas à titre personnel, j'aimerais tenir trois affirmations qui me sont chères et encore une fois qui me semblent jaillir des textes bibliques que nous avons médités ce matin. Première affirmation, Jésus n'a jamais porté de signe ostentatoire religieux ni incité ses disciples, hommes ou femmes, à en porter. La seule fois qu'il y a signe ostentatoire, encore une fois, c'est lors de cette transfiguration où Jésus apparaît dans des vêtements éclatants à ses disciples, mais seulement devant trois de ses disciples. Deuxième orientation, l'accueil de l'autre appelle à une sobriété de comportement dans l'espace partagé. Dans l'espace partagé, sobriété de comportement. Et bien sûr, vous l'avez compris, il me semble, sobriété de tenue vestimentaire. Enfin, troisième orientation, l'homme et la femme, devant Dieu, sont placés sur un total pied d'égalité. Quand on pourrait dire le contraire à partir de textes bibliques, ce serait méconnaître le contexte dans lequel ces textes ont été élaborés. Il me semble vous l'avoir montré avec ce texte du voile de 1 Corinthiens. Alors, frères et sœurs, je me réjouis d'avoir comme collègue de pasteur une femme, Marie-Pierre van den Bosch. Je me réjouis de la femme qu'elle est, je me réjouis du pasteur qu'elle est. Je me réjouis du Saint-Esprit qu'elle a reçu de Dieu. Amen.